vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 94, eh bien, c'est l'histoire secrète et improvisée. Chers amis, bonjour. Parce que lorsque l'on se promène au marché de Noël, on ne sait pas très bien où on va. Et donc, voilà, j'ai oublié de mettre un titre à mon émission. Mais c'est comme ça, les fêtes de fin d'année vous pèsent sur le sifflet. Les fêtes de fin d'année sont revenues nous narguer. Les fêtes de fin d'année, on aimerait bien s'en moquer. La magie de Noël, franchement, ça fout les boules. Surtout au marché où les chalets sont d'une pauvreté, mais d'une pauvreté en imagination, d'une pauvreté ahurissante. Mais bon, on n'est pas obligé d'y aller. Mais quelle réussite de marketing! Les hôtels et les restaurants se gavent de touristes et en font déborder l'île. Les fêtes de fin d'année, ce sont aussi des journées qui soulignent la solitude de ceux qui n'ont pas de sapin à décorer. Et alors dans cet épisode numéro 94 de Vous l'avez bien connu, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur brillantissime qui travaille tout seul dans son coin et qui en a marre de son travail de bureau. Ce sera la première histoire. Alors, la musique que j'ai choisie, toujours sans aucun rapport avec mes histoires, c'est un groupe de quatre filles dans le vent, les Bangles. C'est le nom qui ressemble à Beatles, des Américaines de Los Angeles, Fana des Fab Four de Liverpool, et donc version Susanna, Debbie, Vicky et Annette pour John, Paul, George and Ringo. Triste bureau à Burgendorf. Depuis le Covid, il n'est pas retourné au bureau. D'ailleurs, le bureau, il n'existe plus. Le bail n'a pas été renouvelé. Tous travaillent depuis chez eux, à la maison. Le patron a pris une boîte postale dans un immeuble pour avoir une adresse. Et tout se fait par Skype, email et parfois par téléphone. Il y a une boucle Internet hyper sécurisée et cryptée pour partager tous les dossiers. On se voit par vidéo, on croit se connaître. Et au lieu d'être à Strasbourg, le patron est en Thaïlande. Mais cela n'empêche pas la boîte de bien fonctionner. Il rentre deux ou trois fois par an. Tous se retrouvent alors dans un bon restaurant. Le boss salue chacun, un à un. Certains ont l'impression que c'est un test d'évaluation, mais on ne parle pas du boulot, juste un peu de ceux qui sont partis. Il ne reste plus que 13 employés qui touchent de belles primes grâce aux économies. Pas de loyer, pas d'assurance, pas de parking, pas de chauffage, pas de femme de ménage. Alors, tout va bien. Pas certain. Ça fait quoi d'être un super spécialiste multidiplômé brassant des dizaines de milliers d'euros installé dans un petit village de 600 habitants, Burgendorf, dont la seule activité qu'il connaît, c'est la transformation d'une partie de l'usine agricole en logement de cité dortoir et l'oubli d'un prédateur de triste renommée. Il avait choisi ce coin paumé pour fuir la ville trépidante et ses rythmes convulsés et le plaisir de rentrer chaque soir, seul, au volant, à écouter les Brandebourgeois de Bach ou Pet Sounds des Beach Boys, moment d'exquis isolement, régénérant, en rien égoïste, avant de rejoindre sa famille. La famille dispersée, il décida, avec une majuscule flemme, que déménager serait épuisant. Aujourd'hui, ce qui lui manque le plus, ce sont les pots du vendredi soir, les hypocrites compliments et les exagérés tapent dans le dos, cette convivialité qui finalement n'était pas aussi factice que cela. Pour lui, le télétravail est devenu une machine à mélancolie. La production n'est plus un travail collectif, mais l'addition de tâches individuelles. Au début, il s'était réjoui. Aujourd'hui, il déteste cette soi-disant liberté. Il est prisonnier dans son salon, transformé en bureau. Alors, c'est quoi un bureau ? Il rédige un long mail à tous ses collègues, à tous ses contacts, à tous les riches clients de la boîte. Il raconte que le mot « bureau » vient du mot « bure », qui, au Moyen-Âge, était une grosse toile de laine étendue sur une table pour compter de l'argent sans faire trop de bruit lorsque les pièces s'empilent et risquent de susciter des convoitises. La bure est devenue bureau, explique-t-il, le meuble lui-même où l'on fait les comptes, et c'est ainsi que l'on a appelé le local où était installé le meuble, puis l'ensemble du bâtiment où l'on va travailler et retrouver ses collègues. Mes chers collègues, vous trouverez dans la fonction bureau de mon ordinateur tous les mots de passe pour reprendre mes dossiers, conclut-il énigmatique. Il laisse aussi une lettre manuscrite. Il ne s'excuse de rien. Il dit simplement qu'il n'aurait jamais imaginé la solitude aussi épuisante. Lui qui était un bout en train est fatigué de vivre par procuration dans un village fort sympathique, mais qu'il considère comme une verrue de la petite ville d'à côté, Bar, où l'on ne croise plus que des gens qui marchent le nez dans l'écran de leur téléphone. Il pense à l'article qui paraîtra dans le journal local pour relater que, de façon incompréhensible, il s'était pendu à la poutre de son bureau en considérant que la corde était encore et toujours la tradition des désespérés. Walk Like an Egyptian par The Bangles. Deuxième histoire, un prof de latin qui se transforme en scénariste pour Hollywood. Savez-vous que la vedette Claudette Colbert, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 1935, était d'origine alsacienne ? Voilà cette histoire que j'ai intitulée « Comment la lascive Claudette sauva l'austère latiniste ». Il aimait le latin. Il était professeur de latin. Il avait tous les élèves qui faisaient du latin. Un jour, fin juin, le proviseur le convoqua pour lui dire qu'à la rentrée, il ne pourrait plus lui faire un emploi du temps complet. Trop peu d'élèves. Alors, prendre des classes de français ? Être détaché en parascolaire au club de théâtre ? ou continuer avec un mi-temps de documentaliste. Vous allez vous renouveler, vous allez aimer. Non, il n'aimera pas. Il évoqua l'orgueil d'Œdipe. Il était aussi helléniste. Il se vexa, il refusa. L'académie lui trouva un poste de latin à cheval de Troie sur 3 lycées, 3 jours pleins, un sympathique emploi du temps aménagé, 200 km hebdomadaires. Impossible, il ne conduisait pas, et ce n'était pas à 50 ans passés qu'il allait passer son permis. Il décida donc de donner des cours particuliers. Plein de cours particuliers. Mais il aurait fallu plein d'élèves. Et les seuls qu'il réussit à recruter furent les cancres que les parents de la bonne société voulaient pousser pour être inscrits dans de bonnes classes. Les classes avec latin ayant été, jusqu'à présent, un critère de sélection, car c'est là qu'il y avait les bons profs et les meilleurs élèves. Mais c'était une combine qui disparaissait. Il déprima, trouva refuge dans ses livres, congédia la félicité, sa servante depuis tant d'années, pour les repas, le ménage, le repaissage et les poubelles. Elle était restée fidèle à son maître, qui cependant n'était pas une personne agréable. Fini, il ne pouvait plus la payer. « Ah, j'aurais dû me marier », pensa-t-il, un cœur simple. Il proposa à 3 éditeurs l'idée d'un gros livre, « Jules César en Alsace », en espérant un confortable avaloir. Il n'eut aucune réponse. Alors, sur les bons conseils du seul collègue qui était venu lui rendre visite, il commença à vendre ses livres. Alors, le plus difficile fut de choisir lesquels. D'abord ceux en double, puis, cruauté mentale, ceux dont les auteurs lui paraissaient superficiels, puis les gros livres considérés comme de beaux livres, ceux pour offrir qui coûtent cher et qu'on offre à nouveau sans les avoir ouverts. Alors le libraire d'occasion cessa rapidement le manège. À moins du quart du prix neuf, il en avait accepté quelques-uns au début, ému par la détresse de ce bon client depuis plus de 30 ans. Mais là, non, désolé, je n'ai aucun acheteur pour cela. À la rigueur, amenez-moi un lot, je choisirai, ou alors je vous fais un forfait pour des cartons entiers. Après ce qui se passa, on ne sait pas très bien, parce que plus personne n'allait lui rendre visite. On évoque les difficultés à payer le loyer, un déménagement plus modeste, un travail alimentaire dans une ville où il n'était pas connu, et même un reclassement professionnel par l'agence de l'emploi dans un bureau, un supermarché. On spécule sur la paperasse à remplir pour toucher des allocations. On peut également l'imaginer tel Emil Jannings ou Marco Stanley Fogg en des personnages de fiction que personne ne reconnaîtrait. Voilà le professeur si important et tant admiré, ayant porté Lavallière en soie et bouton de manchette nacrée, dans le rôle de l'homme humilié, ruminant sa déchéance. Il est le héros d'un film, devenu le dernier des hommes. Et coup de sort final, il rencontre un milliardaire qui l'embauche comme précepteur de son futur héritier, âgé de 10 ans, et pour aller vivre dans une somptueuse villa. Ou alors le voilà dans un roman, héros qui, après avoir vendu tous ses livres, un soir de triste lune devant un palace, qui devient un clochard, ridiculisé par les vrais SDF cruels et sans pitié, indifférent à sa lente descente en enfer, le poussant à l'idée de sa propre fin. Et puis, il serait reconnu par un ancien collègue, spécialiste bien entendu de Dante, qui l'accueillerait chez lui et où il rencontrerait une jeune étudiante dont il tomberait éperdument amoureux. C'est bien le cinéma et l'amour qui sauveront notre latiniste. Son errance l'avait mené à Vaslon, sa ville natale. Il y retrouva, rue de la Filature, les voisins de son enfance, les Chauchouins, dont l'une des filles, Émilie, devint une vedette à Hollywood sous le nom de Claudette Colbert. Donc presque alsacienne, la renversante actrice incarna la très sensuelle Poppée, l'épouse de Néron, merveilleusement lascive dans des bains de lait d'ânesse. Elle interpréta aussi Cléopâtre, reine fatale, dans des robes fort osées et qui fut aimée par Jules César et Marc-Antoine. Et précisément, car c'est de nos jours la grande mode des biopics, une équipe de scénaristes américains cherchait à Vasselon l'inspiration pour des scènes de Claudette, le titre du film, les friponnes racines alsaciennes de la star expliquaient certainement d'aussi galantes exaltations transposables dans l'Empire romain. Alors là, un spécialiste de Jules César, mais quel hasard, quelle belle rencontre! Racontez-nous tout, monsieur le latiniste, on vous embarque à Hollywood, vous y ferez une nouvelle carrière, vous écrirez des péplums triomphants. Il partit, et le lycée de Haguenau et ses élèves cossards furent enfin oubliés. Pour conclure cet épisode 94 de Vous l'avez bien connu, là on vient d'écouter Walking Down Your Street par The Bangles. Voici une histoire aussi brève qu'une chanson à succès. C'est une fille qui dit qu'elle est folle, elle est folle de t'aimer, qu'elle sait très bien qu'un jour tu partiras, mais quand même, elle continuera à être folle de t'aimer, folle partie de campagne. Elle a d'abord dit « Je suis stupide, puis je suis folle, folle de t'aimer, alors que je sais qu'un jour, bientôt, tu partiras, et je serai folle de continuer à t'aimer, je serai folle de penser que tu reviendras, que tu n'es pas parti, que tu es toujours là, au café Brandt, avec moi, parce que tu sais que je t'aime et que personne ne t'aimera comme moi. » Ah, j'attendrai, je pleurerai et j'irai voir Jolaine. Jolaine, je t'en prie, Jolaine, tu es bien plus belle que moi. Ton sourire est comme le souffle du printemps. Mais ne me prends pas, mon homme, Jolaine. Toi, tu peux tous les avoir. Moi, je ne veux que celui-là. C'est mon homme, Jolaine. Laisse-le-moi, parce que moi, je l'aime, cet homme. Je n'aime que lui. Je sais, je suis folle de l'aimer. Je sais, Jolaine, ils finissent tous par partir. Mais pas celui-là. Laisse-le-moi. Combien de jours gâchés, combien de nuits gâchées à attendre, à pleurer. Mais moi, je suis folle. Je continue de l'aimer. Un jour, il me dira « Voilà, je suis là pour toi. » Mais je me continuerai à me dire que je suis folle, folle de penser qu'il n'y aura pas un jour où il partira, un jour où je cesserai de pleurer. Je suis folle de pleurer quand tu me dis que tu m'aimes, qu'à ce moment-là, je me sentirai tellement déprimée parce que je sais que tu ne m'aimeras que le temps que tu voudras et qu'un jour tu me quitteras à nouveau pour quelqu'un d'autre. Tu m'auras dit « ne t'inquiète pas », tu répéteras « ne t'inquiète pas » jusqu'au jour où tu partiras. Et je me dirai « est-ce que j'ai mal fait ? Est-ce que j'ai bien fait ?» Je dirai « je veux me jeter du haut de la cathédrale. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de pleurer ? Pourquoi je ne peux pas arrêter de pleurer ? Pourquoi je suis folle de penser que mon amour pourrait te retenir ? Je suis folle de penser que je n'ai pas tout essayé. Je suis folle de dire que je te comprends, crazy, crazy. Je suis folle de te pardonner, de te laisser faire ce que tu veux, de te répéter, ne pars pas, reste avec moi, je suis folle de t'aimer. » Trouvez pas que ça ressemble un peu aux Beatles? Enfin, moi, ça me fait plaisir de penser que The Bangles, ça ressemble aux Beatles. Voilà, fin de l'épisode numéro 94. Là, on a entendu le titre qui s'appelle Waiting for You. Ça marche pour tout. Waiting for you, je t'attends. Voilà, vous l'avez bien connu. Et pourtant, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Alors, vous retrouverez toutes mes histoires sur le blog AFP Ambroise Fiction Presse. La semaine prochaine, on part en ski, en autocar, et on rend visite à un centenaire dans un EHPAD, et cadeau de Noël, un super hold-up, mais qui va foirer parce que le pistolet était en plastique. Voilà, fin de l'épisode numéro 94, vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, et à la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom, Jingle Bell, c'est Ambroise Perrin.
Fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.